Amen. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver après ces 2 mois de vacances. Waouh! Enfin, je suis pas sûr que tout le monde ait eu 2 mois de vacances vraiment. Mais en tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour ce culte. Et en introduction de ce message, je vous propose de commencer par une lecture dans l'évangile de Luc. Donc on est dans Luc au chapitre 21. Et on va lire à partir du premier verset. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tout cela ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. » Amen. Dans ce passage, Jésus se trouve dans le temple de Jérusalem. Il n'est pas seul, il est avec ses disciples, et il est témoin de cette scène que nous avons lue ensemble. Cette pratique de mettre des offrandes dans le tronc, elle est déjà très ancienne, puisqu'elle vient de l'époque du roi Joas. Donc ça se passe dans 2 rois au chapitre 12, donc il s'est quand même passé quelques siècles entre-temps. À l'époque, le temple de Dieu avait besoin de réparation et d'entretien. Et c'était les offrandes volontaires du peuple qui étaient mises dans un coffre dont le couvercle avait été percé pour que justement on puisse y mettre les offrandes. Et une fois que le coffre était plein, l'argent était compté et servait ensuite à payer les ouvriers qui faisaient les réparations du temple, non seulement pour les travaux qu'ils avaient déjà effectués, mais également par avance pour les travaux qui étaient à venir. Et à l'époque de Jésus, cette pratique, elle continue d'avoir lieu. Elle est devenue, en fait, à l'époque de Jésus, une occasion pour les riches de faire savoir qu'ils sont vraiment riches. Alors, en fait, quand ils mettent de l'argent dans le tronc, il faut faire le plus de bruit possible. Plus vous faites de bruit, plus vous montrez aux autres que vous avez de l'argent, même si ce n'est qu'apparence, mais il fallait montrer. Alors forcément, dans ce contexte, 2 petites pièces d'une pauvre veuve, ça ne fait pas beaucoup d'éclat, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Et aux yeux de l'assistance, finalement, cette offrande n'avait quasiment aucune valeur. Pourtant, on l'a lu ensemble, pour Jésus, l'offrande de cette veuve a été l'offrande la plus importante. Et cela nous parle donc de valeur. Comment est-ce que nous percevons la valeur? Quelle est la valeur de notre offrande? Quelle est la valeur que nous donnons à telle ou telle chose, à tel ou tel investissement, à telle ou telle décision? Quelle valeur? C'est vraiment le titre de mon message ce matin. Humainement parlant, on l'a vu, l'offrande de cette veuve n'a quasiment aucune valeur. Mais aux yeux de Dieu, c'est son offrande qui a le plus de valeur. C'est un renversement des valeurs qui s'opèrent. Et dans la Bible, eh bien, on retrouve plusieurs exemples de renversement des valeurs. Entre les valeurs humaines, d'un côté, et les valeurs spirituelles de l'autre. Il y a à chaque fois une opposition flagrante entre la valeur que l'être humain donne et celle que Dieu donne aux personnes, aux choses, aux décisions, etc. Alors ce matin, on va prendre plusieurs exemples pour voir un petit peu, au travers de la parole de Dieu, eh bien, ce que l'on peut comprendre au travers de tout cela. Et le premier exemple que j'aimerais prendre avec vous, c'est celui de Noé. Alors, on connaît bien cet exemple où Dieu parle à Noé et Dieu ordonne à Noé de construire une arche où il entrerait avec toute sa famille et avec lui tous les animaux que Dieu enverrait avec lui. Et puis, dans Genèse au chapitre 6, l'Éternel va ajouter au verset 17 « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre. » Et ce déluge d'eau, Ben, c'est quelque chose qui n'est encore jamais arrivé à l'époque de Noé. Je vais même aller plus loin. Il n'a même jamais encore plu à l'époque de Noé. La pluie n'existait pas. Alors, parler d'un déluge, c'était assez inattendu. À l'époque, Dieu abreuvait le sol avec une sorte de vapeur. C'est ce qu'on peut lire dans Genèse au chapitre 2, verset 6. « Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. » Aux yeux du monde de l'époque, Noé, eh bien, c'est quelqu'un qui est fou, en fait. Et d'ailleurs, c'est plus ou moins ce que veut dire le mot « déluge » en hébreu. Ça se prononce « maboul », « déluge ». Et ce mot, on le connaît, hein, « maboul », parce que ça a ensuite navigué au travers les différentes langues jusqu'à l'arabe, et c'est ce qui a influencé notre mot français, « maboul ». Et on le comprend, ça signifie « fou », quelqu'un qui a perdu la raison. Et certains traducteurs vont même traduire, plutôt que « déluge d'eau », ils vont traduire par « confusion d'eau », ce qui montre bien cette folie. Ce qui nous confirme que cette idée qu'annoncer un déluge, ben c'est vraiment quelque chose de fou aux yeux du monde. Et construire une arche comme Noé l'a fait, eh ben, ça n'a vraiment aucune valeur. Il construit quelque chose qui semble être un gaspillage aux yeux de tous ceux qui l'entourent. Pourtant, qu'est-ce qu'a fait Noé ? Est-ce qu'il s'est arrêté là ? Est-ce qu'il a écouté les gens ? Tu es fou, arrête-toi ? Non, hein ? Il a persévéré, au contraire. Dans Genèse au chapitre 6, verset 22, c'est ce que la Bible nous dit, que Noé a écouté Dieu. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il a donc construit l'arche, accueilli les animaux, il est monté dans l'arche avec toute sa famille. Dieu a fermé l'arche et il est resté là encore 7 jours avant que la pluie elle tombe quand même. Mais Dieu a envoyé le déluge. Et cette obéissance que Noé a eue avait de la valeur aux yeux de Dieu. Et cette valeur, c'était celle du salut. Tous ceux qui n'ont pas vu la valeur de cette obéissance, eh bien, ils n'ont pas pu être au bénéfice de cette valeur. Le salut leur a été présenté, mais ils ont refusé ce salut. Ils ont privilégié leur propre perception de la valeur à celle que Dieu leur proposait. Et parfois, Dieu nous demande des choses un peu comme ça, des choses qui sont folles à nos yeux et qui sont folles aux yeux de ceux qui nous entourent et qui nous le font bien savoir. Des choses qui renversent notre perception des valeurs. Or, il ne s'agit pas forcément d'argent. Ça peut être le cas, mais ça n'est pas forcément le cas. Il peut s'agir aussi de temps, il peut s'agir d'une personne, il peut s'agir d'une décision particulière. Et parfois, comme pour Noé, faire la volonté de Dieu, ben ça peut paraître un gaspillage aux yeux des êtres humains. Mais c'est un investissement d'une grande valeur pour le royaume de Dieu. Alors soyons donc à l'écoute de ce que Dieu nous demande. Et que notre écoute soit une écoute active, une écoute qui passe à l'action avec obéissance. Amen. Amen. On a vu un premier exemple. Mais savez-vous que dans la Bible, il y a aussi des contre-exemples? L'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. On va en voir un. Avec le cas de Saül. Et voici ce que la Bible nous dit à propos de Saül. On est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 9. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bécorat, fils d'Afiak, fils d'un Benjaminite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils, du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Waouh ! Sa taille et sa beauté faisaient de lui le modèle du roi idéal, physiquement parlant. Parce que par son aspect, il avait tous les atouts que le peuple attendait pour son roi. Et Saül, va devenir le premier roi d'Israël désigné par Dieu. Mais attention, désigné par Dieu, oui, mais pas parce que Dieu avait prévu de donner un roi au peuple. C'est parce que le peuple réclamait un roi que Dieu leur en a donné un. 1 Samuel au chapitre 8, le chapitre juste avant, au verset 19, le prophète Samuel va prévenir le peuple de toutes les conséquences qu'il va y avoir à avoir un roi comme celui des autres nations, à la demande de Dieu. Mais à la fin, le peuple a bien écouté et répond ceci. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. « Non !» dirent-ils. « Mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les autres nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. » Le peuple a demandé à Dieu un roi comme celui des autres nations. Alors c'est ce que Dieu leur a donné. Et malheureusement, Saül avait, comme les rois des autres nations, une perception de la valeur à l'échelle humaine. Et pas du tout à l'échelle de Dieu. C'est ce qui va donner à plusieurs reprises de très difficiles désobéissances de la part de Saül par rapport à ce que Dieu lui demandait. Et ça se termine par une situation finale que l'on trouve dans 1 Samuel au chapitre 15. On va lire à partir du verset 1er. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Ça peut paraître dur comme ça, mais il y a des raisons qui s'expliquent derrière toute cette demande de la part de Dieu. Et dévoué par interdit, ça veut dire que tout doit être dévoué à Dieu en le détruisant notamment par le feu. Et que rien, surtout rien, ne doit être gardé par le peuple. Malheureusement, Saül, il a fait ce qu'il voulait lui-même et pas vraiment ce que Dieu lui demandait. Enfin, il en a fait une partie, puis pas forcément l'autre. On va le lire ensemble. C'est dans le même chapitre, ça n'a pas été long. Au verset 7, « Saül bâtit Amalek, depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. » Jusque-là, tout va bien. « Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. » Ça se gâte un petit peu déjà. Et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Donc ce qui est le plus choquant, il l'a fait sans problème. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs et les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Donc le roi Saül a vraiment gardé que ce qui avait de la valeur à ses propres yeux. Les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, tout ce qu'il y avait de bon. Et il a donné à l'Éternel ce qui était méprisable et chétif. Il a donné à l'Éternel ce qui n'avait aucune valeur pour lui, en fait. Pourtant, qu'est-ce qui avait de l'importance pour Dieu ? Est-ce que c'était vraiment qu'il donne ses bêtes en sacrifice ? Bien sûr que non. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas les richesses. Toutes ces richesses, elles appartiennent déjà à Dieu. Il en dispose comme il le souhaite. Ce qui comptait pour l'Éternel, c'était que Saül obéisse, tout simplement. Pourtant, ce n'est pas une demande qui a été nouvelle. Saül avait déjà eu un exemple parmi les anciens qui avaient déjà vécu quelque chose de similaire. À l'époque de Josué, après la prise de Jéricho, Dieu avait demandé pour Jéricho de dévouer par interdit toutes les personnes, les bêtes, etc. De la même manière que pour Amalek. Et juste après, la Bible nous rapporte qu'il y a un homme parmi toute la tribu d'Israël qui a agi différemment. Il a pris un manteau, il a pris un lingot, des choses qu'il a cachées contre la volonté de Dieu. Et cet homme-là est mort avec toute sa famille. Saül avait cet exemple-là qu'on peut lire dans Josué 7. Pourtant, ça ne l'a pas empêché d'agir contre l'ordre de Dieu. Et après cet épisode, eh bien, Dieu prend une décision et va déclarer à Saül au travers de la bouche du prophète Samuel, au verset 28, toujours de 1 Samuel 15, Samuel lui dit « L'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. » Il n'a pas déjà été foudroyé de feu comme l'ont été d'autres avant lui. Là, on lui retire juste la royauté. Dieu a fait preuve de bonté malgré tout envers Saül. Et quand il est question d'un roi qui serait meilleur que lui, ce n'est pas meilleur au sens humain. C'est meilleur dans le sens d'un roi qui sera obéissant à la volonté de Dieu. Et ce roi, ce sera le roi David. Alors cet épisode-là avec Saül nous invite à vraiment être vigilants, mes frères et sœurs. Parce que la Bible nous enseigne et nous prévient. Elle nous donne de nombreux exemples et de nombreux contre-exemples pour constater eh bien, des conséquences. Lorsque notre perception est basée sur des valeurs humaines, et aussi lorsque notre perception est basée sur des valeurs qui sont fidèles à celles de Dieu. Alors, recherchons à ressembler plutôt à Noé ou à David, et pas à Saül, justement, qui nous montre ce contre-exemple et les conséquences d'une vie qui est dans la désobéissance devant Dieu. J'aimerais aborder un exemple, peut-être, pas peut-être d'ailleurs, c'est le meilleur exemple que l'on puisse avoir. Est-ce que vous savez de qui je parle ? Je n'ai pas entendu. Jésus. Jésus, notre meilleur exemple, effectivement. C'est la troisième partie. Et c'est le meilleur exemple à tous les niveaux, en fait. C'est le meilleur exemple, déjà, à travers sa naissance. Sa naissance en elle-même, elle vient renverser notre échelle de valeurs, notre perception des valeurs. Jésus, il est roi des rois. Il est le fils de Dieu descendu sur terre. Pourtant, il n'est pas né dans un palais de roi, ni au milieu des richesses, ni dans une famille prestigieuse. Non, rien de tout ça. Sa naissance, elle s'est faite dans une étable. Son berceau, c'était une mangeoire pour les animaux. Ses parents venaient d'une ville appelée Nazareth, qui est perçue comme une région sans aucune valeur depuis l'époque du roi Salomon, donc une époque déjà très ancienne. Mais ce n'est pas seulement sa naissance qui renverse notre perception des valeurs. C'est toute sa vie qui renverse notre perception des valeurs. Dans notre société, on a un modèle de réussite pour notre vie. Et pour réussir sa vie dans notre société, qu'est-ce qu'il faut avoir ? Il faut avoir un conjoint, il faut avoir des enfants, il faut avoir une belle voiture, il faut avoir une maison, même avec une piscine, c'est encore mieux, avec un grand terrain, avoir un bon job. Ah, si on peut être le chef, c'est mieux. Si on peut même être chef d'entreprise, grand directeur, c'est encore mieux. Si on peut avoir des loisirs prestigieux, avoir un salaire, plus il est important, plus il y a de zéro, plus il y a de chiffres, mieux c'est. Si on peut voyager à l'autre bout du monde, c'est encore mieux. Notre société, c'est une course à la consommation. C'est une course à ce modèle-là, aux loisirs, aux distractions. Et c'est à celui qui en a le plus que le plus grand prestige et la plus grande gloire revient. Un peu comme s'il fallait montrer que l'herbe la plus verte, elle n'était pas dans le jardin du voisin, mais dans mon jardin à moi. Mais Jésus, comment était sa vie ? Jésus n'avait pas de salaire. Jésus n'avait pas de voiture, il se déplaçait à pied. Jésus n'avait pas de maison, il était errant. Il n'avait rien qui lui appartienne. Il n'a même pas voyagé. Il est resté dans une même partie du monde, en Israël, entre la Galilée et la Judée. Toute sa vie, en fait, c'est vraiment l'exact contraire du modèle que notre société nous donne. Et notre société moderne nous donne encore d'autres modèles, celui des réseaux sociaux, où c'est la course à l'amitié, la course à la notoriété, On compte notre valeur en amis, en followers, en j'aime, en vues, etc. Alors c'est vrai que Jésus a eu des disciples, même nombreux par certains moments. Mais beaucoup l'ont aussi quitté parce qu'ils étaient choqués par ses enseignements. Jésus n'a jamais cherché à plaire aux foules. Il leur disait simplement la vérité. Il leur enseignait les réalités du ciel. Mais il ne cherchait pas à plaire. Il ne cherchait pas l'approbation des êtres humains, quel que soit leur statut. Il annonçait simplement ce que Dieu lui avait demandé d'annoncer. C'est ce qu'on peut lire notamment dans Matthieu chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Vous savez ce que Jésus a même dit ? Il a dit d'aimer nos ennemis. Il n'a pas dit « faites-vous le maximum d'amis ». Il n'a pas dit de faire de nos ennemis des amis. Il a dit d'aimer nos ennemis, de prier même pour nos persécuteurs. On peut le lire hein, dans Luc au chapitre 6, verset 27, c'est Jésus qui parle. « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » On est très loin de ce que l'on voit dans notre société, parmi les influenceurs du web qui critiquent, qui clashent pour plaire, même pour désinformer leur propre public, pour des raisons financières la plupart du temps. On a toutes les raisons d'être mécontents quand on voit ce que notre société nous donne. Et pourtant, Dieu nous dit d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous détestent. Waouh ! Ça, c'est la vie de Jésus. Ça, c'est un exemple extraordinaire. Mais même par sa mort, Jésus est aussi un exemple. Parce qu'il est allé encore plus loin. Dans notre société, la mort d'une personne, c'est sa fin. Quelqu'un qui est mort ne peut plus rien faire, il est devenu sans valeur. Mais Jésus, par sa mort, qu'est-ce qu'il est venu faire ? Il est venu donner sa vie, et sa mort a été la victoire ultime sur le péché et sur la mort. Car Jésus n'est pas resté mort, il est ressuscité. Amen. Et son sacrifice a été voulu de Dieu. Il a été le moyen de Dieu pour nous sauver. C'est quelque chose qui peut nous paraître complètement fou. Que quelqu'un soit mort et ressuscité. Il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas du tout. Ils pensent que ça n'existe pas. Comme à l'époque de Noé, la plupart des gens pensaient que la pluie, ça n'existait pas. Alors un déluge, c'était trop fou, c'était ma boule. Pourtant, le déluge a bien eu lieu. Et seuls ceux qui sont montés dans l'arche ont été sauvés. Et vivre aux côtés de Dieu en plaçant notre foi en Jésus, c'est vrai, c'est fou. On peut dire que c'est ma boule. Mais c'est le moyen de salut que Dieu a utilisé. Le bois de la croix, c'est comme le bois de l'arche. La croix, c'est notre arche. Et en acceptant Jésus-Christ comme notre sauveur, nous acceptons d'être sauvés par Dieu. Pas par nos propres forces, mais par la volonté de Dieu. Amen. Aux yeux du monde, le sacrifice de Jésus n'avait aucune valeur. Car c'est avec leur perception humaine qu'ils jugent sans valeur son sacrifice. Mais aux yeux de Dieu, Jésus, c'est son Fils unique, qui est mort sur la croix. Son Fils sans péché, dont la vie et le sang avaient une telle valeur que la dette de toute l'humanité a été payée, que ce soit l'humanité passée, présente ou future. Tous ceux qui ont accepté le plan de Dieu sont sauvés. Et Dieu veut renverser notre échelle de valeur afin que nous entrions dans la vie éternelle à ses côtés. Amen. Jean chapitre 3, verset 16. C'est un verset que tout le monde connaît, ou en tout cas la plupart connaissent par cœur même. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Mais ça continue. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne, et c'est la vérité. J'en arrive à la conclusion de mon message. Et je voudrais revenir à nos versets d'introduction avec cette veuve qui nous a fait cette belle démonstration. Elle a mis deux petites pièces dans le tronc du temple. Tout ce qu'elle avait pour vivre, tout son nécessaire. Elle aurait pu se dire que ce n'était pas la peine de donner ces deux petites pièces. Parce que de toute façon, aux yeux des autres, ça n'avait pas de valeur. Mais pourtant, elle a fait la volonté de Dieu en donnant ces deux petites pièces. Et c'est pour ça que son offrande a été revêtue d'une si grande valeur. La Bible ne nous dit pas si Dieu a béni cette veuve au centuple. La Bible ne nous dit pas si Dieu a eu une action particulière vis-à-vis de cette veuve pour la récompenser d'une manière ou d'une autre de son offrande. En revanche, la Bible nous dit ce qu'elle a fait. Et 2000 ans encore après, on se rappelle de ce qu'elle a fait, de son exemple. Et ça m'amène à cette question, mais combien de fruits son exemple a-t-il porté pendant ces 2000 ans? Et quand je regarde à moi, est-ce que mon témoignage, mon attitude, mes choix, mes actions, est-ce que ça a porté autant de fruits? Non, j'en suis tellement loin. Mais recherchons vraiment à avoir cette même attitude que cette veuve. À faire des choix qui honorent Dieu, qui sont la volonté de Dieu. Des choix qui ont une valeur spirituelle si grande. Et ne tenons pas compte des valeurs que les êtres humains donnent aux choses, aux événements, au prestige, aux amis. Car tout ça, ce sont des valeurs qui sont passagères. Devant Dieu, ça n'a pas de valeur. Recherchons ces valeurs véritables, ces valeurs qui viennent de l'obéissance à Dieu, tout simplement. Laissons Dieu renverser notre perception des valeurs. En laissant Dieu faire, en laissant Dieu renverser notre perception des valeurs, nous pourrons devenir entre ses mains des instruments utiles qui font la volonté du Père. Amen. Seigneur Jésus, je veux vraiment te remercier, Seigneur, ce matin pour ces exemples que tu nous donnes au travers de Noé, au travers de Jésus, au travers de cette veuve, Seigneur. Je veux vraiment me rappeler, Seigneur, de ces exemples pour vraiment faire de même dans ma vie, pour que chacun de mes frères et sœurs ici présents, Seigneur, puisse faire de même, Seigneur, en recherchant non pas ce qui a de la valeur aux yeux des hommes, mais en recherchant ce qui a de la valeur à tes yeux. L'obéissance à ta parole, l'obéissance à ce que tu nous demandes, Seigneur. Oui, viens nous éclairer, viens nous donner le discernement, Seigneur. Viens nous remplir par ton esprit, afin que ce qui est impossible, Seigneur, pour nous, êtres humains, devienne possible par ton action dans nos vies, devienne possible par ton Saint-Esprit qui vient en nous, Seigneur, et qui peut nous permettre de faire ces choses extraordinaires, d'être capable de donner de notre nécessaire, d'être capable de faire des choses qui sont folles, qui sont maboules aux yeux du monde, d'être capable de faire des choix, Seigneur, qui, oui, c'est vrai, peuvent paraître un gaspillage, peuvent paraître une folie aux yeux des autres, Seigneur, mais tout en sachant que c'est ta volonté, tout en sachant que c'est là où tu nous emmènes, Seigneur. Merci pour tes bras d'amour. Merci, Seigneur, pour ta présence à nos côtés chaque jour. Merci, mon Dieu, pour ta grâce. Merci pour Jésus que tu as envoyé pour nous sauver. Merci pour le bois de la croix qui est notre arche. Permets que nous puissions tous remettre notre confiance, Seigneur, en toi. et que nous puissions vivre l'éternité à tes côtés. Amen.